L'Église nous invite à méditer sur l'humilité. Voilà une belle chose. Et vraiment, la figure la plus humble que nous ayons dans le Nouveau Testament, c'est vraiment le Christ lui-même. Le Christ, c'est Dieu éternel, Dieu infini, et cet infini est venu sur la terre, il s'est incarné, et il s'est fait obéissant. Il est né et il a dû grandir, et il s'est fait obéissant au Père et même aux lois humaines. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, puisqu'il a vécu notre condition mortelle. Et la mort sur la croix, la mort la plus ignominieuse qui soit, celle des réprouvés. Voilà l'humilité véritable. Celui qui pouvait venir sur un char triomphal est venu, eh bien, en homme, en mendiant, parce que nous sommes tous, par notre condition, justement, des mendiants. L'humilité, c'est ça. C'est pas une négation lorsque des disciples se prosternaient devant lui, l'appelaient maître, il acceptait leur hommage. Vous dites que je suis le maître et vous avez raison, c'est ce qu'il répond. L'humilité, c'est pas la négation de la vérité, mais le fait qu'un tel maître soit au milieu des hommes est en soi la preuve de la plus grande humilité qui soit. L'humilité est donc une vertu très précieuse à Dieu. Aujourd'hui, nous fêtons une grande figure, saint Augustin. Il est un docteur de l'Église. Quand l'Église souligne le titre d'un saint, il faut d'abord être saint pour être docteur de l'Église, ça veut dire que ce saint a eu une influence qui a dépassé sa vie, son époque historique. Ses enseignements ont couru à travers les âges et ont nourri une foule, une multitude de croyants. Voilà ce qu'est un docteur de l'Église. Il peut arriver, eh bien, qu'après, par exemple aujourd'hui, il y a certains docteurs de l'Église qu'on ne lit plus beaucoup, dont on ne parle plus. Ils sont pourtant docteurs de l'Église, parce qu'au moment où leur doctorat, leur sagesse a été proclamée, eh bien, véritablement, ils avaient nourri par leurs enseignements une multitude de gens au-delà même de leur mort. Voilà ce qu'est un docteur de l'Église. Et saint Augustin, quand il est tout jeune, vous voyez, il a une vingtaine d'années, il va enseigner pendant 10 ans la grammaire d'abord, et la rhétorique ensuite, ce sera à Carthage. Et il aura donc des élèves à peine moins âgés que lui. Le premier traité qu'il va écrire, alors qu'il est païen encore, hein, son père est païen, Monique, nous l'avons célébré hier, elle est chrétienne. Mais elle va attendre longtemps, une dizaine d'années à peu près, pour que son fils commence à subir les assauts de son humilité à elle. Car Monique est d'une grande humilité. Et le premier traité qu'Augustin, en tant que païen, va écrire, c'est sur la beauté. La beauté le fascine. Et il y a, entre beauté et humilité, déjà un lien ténu qui ne cessera de se renforcer dans sa vie. Ensuite, il adhère au mouvement du manichéisme. Vous savez, c'est un peu comme les cathares. Enfin, c'était avant le cathare, et ça a inspiré le catharisme. C'est deux dieux, hein, un dieu du bien, de la lumière, un dieu de l'obscurité, des ténèbres qui s'affrontent. Et pourquoi ? Parce qu'il recherche la vérité, Augustin. Alors ça, c'est une grande qualité aussi que Dieu demande à chacun d'entre nous, de rechercher la vérité, d'être en état de recherche. Et qui cherche, eh bien, trouve. C'est ça a été le cas d'Augustin. Et son cœur s'est trouvé sans repos et jusqu'à ce qu'il parvienne au christianisme, donc à Milan concrètement, à l'école de Saint-Ambroise. Là, il a compris, le Seigneur a fini de le convertir là et il est devenu ce grand docteur que nous connaissons. Au long des siècles, eh bien, tous les théologiens n'ont cessé de s'abreuver à Saint-Augustin. Au XIIIe siècle, on a saint Thomas d'Aquin qui va surpasser Augustin. mais en même temps, il le cite à chacune de ses phrases, quasiment. Et donc il est totalement tributaire, et lire saint Thomas d'Aquin, c'est encore lire saint Augustin, même si saint Thomas n'est pas toujours d'accord avec les positions d'Augustin. Aujourd'hui encore, Augustin continue de nourrir notre méditation. Et lui, il n'a pas été oublié. C'est vraiment un géant. Mais pourquoi est-il devenu ce géant? Parce qu'il a fait une synthèse de la foi. Et vraiment, l'humilité était, comme pour saint Thomas d'Aquin, d'ailleurs, qui comparait son œuvre à de la paille à la fin de sa vie, ça ne sert à rien. Alors que nous voyons un édifice quasi indépassable, eh bien, lui n'y voyait rien du tout par rapport à la vérité. Ça, c'est la véritable humilité. L'humilité comme chemin de sagesse. C'est la première lecture. J'aimerais faire décliner l'humilité avec certaines autres vertus. L'humilité conduite à la vérité. Vous voyez, Augustin l'a recherché, cette vérité, de tout son être. Et c'est quand il était jeune, il était orgueilleux. Il voulait briller, il voulait être reconnu en tant que rhéteur, donc quelqu'un qui fait des discours et qui enseigne à des hommes politiques à faire de bons discours eux aussi. Vous voyez, c'était ça le métier d'Augustin. Et il était loin de l'humilité à ce moment-là. Mais quand il a trouvé la vérité, eh bien, sa vie a complètement changé de direction. Il est devenu cet homme humble qui est un véritable modèle pour tous les intellectuels catholiques. C'est quand on regarde la vérité du monde, la vérité de la condition humaine, quelle construction terrestre peut bien lutter contre la mort. On voit des gens qui s'agitent partout pour réussir. Alors, c'est pas seulement pour avoir immédiatement un confort immédiat. Ça va plus loin. L'orgueil va plus loin. La vanité va plus loin. C'est pour essayer de graver dans le marbre son nom, son destin. Mais rien ne tient. Quelle vanité. Vanité des vanités. Tout est vanité et poursuite devant, disait l'Ecclésiaste. Il n'y a rien. La condition humaine ne justifie pas l'orgueil. Notre condition est celle de l'esclave, parce que nous sommes soumis à la mort. Quel souvenir des hommes qui ont dominé le monde, qui l'ont conquis au long de l'histoire, ont-ils laissé véritablement? Rien. Quelques syllabes dans les manuels historiques que nous pouvons consulter aujourd'hui, et quoi d'autre? De l'amour. Les grands hommes ont-ils suscité de l'amour parmi les générations qui leur ont succédé? Pas du tout. Pas du tout. Ils ont voulu conquérir le monde, ils ont été violents la plupart du temps, et en tout cas d'un égoïsme tel qu'aucun d'entre eux n'a suscité l'amour. Il n'y a que Jésus qui suscite l'amour, parce que lui, il est tout le contraire de ça. L'humilité dispose, conduit au bonheur et à la paix. Ça, c'est d'autres dimensions. Vous voyez, l'orgueilleux est immergé dans une recherche inlassable du triomphe ou de la reconnaissance. Et tant qu'il ne la trouve pas, eh bien, il est mu par un mouvement qu'il n'arrive pas à maîtriser. Et il n'est pas dans la paix, celui-là. Il n'est pas dans le bonheur. Et dès qu'il obtient une reconnaissance, eh bien, il est dans l'inquiétude, parce qu'il peut la perdre à tout moment. Et s'il la perd auprès de certains, eh bien, il rentre dans une grande colère, comme disait Évagre le Pontique à propos des moines qui se laissaient aller à l'orgueil afin que leur pseudo-sainteté soit reconnue par leurs frères. L'humilité dispose encore à l'amour. Pourquoi? Parce que l'humilité, elle dispose au don de soi. L'homme humble multiplie les amitiés, tandis que l'orgueilleux, lui, il multiplie les discordes, il multiplie les ennemis. L'humilité, enfin, elle nous dispose à la pureté spirituelle. C'est une disposition à obtenir un retour à une certaine innocence. Vous voyez, c'est reconquérir, reconstruire, regreffer en quelque sorte un cœur d'enfant dans son âme. L'enfant n'est pas orgueilleux par nature. Il peut avoir des mouvements de vanité, mais il n'y a pas d'enfant orgueilleux. Ce sont les adultes qui sont orgueilleux parce que c'est un péché spirituel, le péché qui amène avec lui tout le cortège des autres. Demandons au Seigneur de devenir des sages. Demandons à Saint Augustin spécialement d'intercéder pour nous.